Bonjour à tous. Ce matin, je ne suis pas là. Enfin, je suis là, mais je suis pas là pour vous faire un Morning Bull Live. Je suis en balade au travers de l'Europe, à Bruxelles pour être plus précis. Alors, je vous ai laissé un souvenir et je me suis dit qu'on pourrait pour une fois parler d'un concept boursier qu'on pratique souvent, mais dont on ne parle que très peu. La question aujourd'hui sera donc de savoir pourquoi les marchés aiment les mauvaises nouvelles, autrement dit, le concept du « bad news is good news ». J'en ai déjà parlé moult fois dans mes vidéos, mais là, on va essayer de le décortiquer en quelques minutes. Inflation qui grimpe, récession annoncée ou supposée, chiffres moins bien que prévu, attentes déçues, taux qui ne baissent pas assez vite, et même des fois, la météo qui est contre nous. Et pourtant, malgré tout ça, eh bien la bourse, elle monte. Mais pourquoi est-ce qu'elle monte? Pourquoi est-ce que les marchés semblent adorer ces mauvaises nouvelles? Eh bien aujourd'hui, on décortique ce paradoxe qui rend fou. Alors pourquoi les mauvaises nouvelles peuvent-elles être positives pour les marchés? Eh bien ça tourne souvent, pour ne pas dire tout le temps, autour du concept des banques centrales. On a appris avec le temps, surtout depuis quelques années, que quand les chiffres économiques sont mauvais, comme une hausse du chômage ou une baisse de la croissance, la réaction typique des banques centrales quand tout va mal, c'est d'intervenir, puisqu'on sait qu'elles sont nos amies et que depuis les crises des années 2000, elles se pointent toujours au bon moment, comme Zorro, mais sans le cheval. Des fois, on appelle même ça le put des banques centrales, puisqu'on sait que de toute façon, dès que ça baisse beaucoup, elles vont intervenir. Du coup, on a commencé à comprendre le principe. Et dès que ça va mal, elles baissent les taux ou elles injectent de l'argent dans l'économie. Et devinez quoi? Eh ben oui, les marchés adorent ça et donc ça remonte. Du coup, on en est presque à se dire « J'espère que les chiffres seront tout pourris parce qu'au moins les banques centrales vont intervenir et ça, ça sera plus clair que si on compte sur l'économie et ces andouilles de consommateurs qui n'y comprennent rien pour relancer l'économie. » Ah non mais attends. Mais je suis aussi un consommateur, moi. Alors, si vous voulez un exemple, par exemple, en 2020, pendant la pandémie, les économies étaient à l'arrêt, on était tous en train de chasser le rouleau de PQ et la boîte de thon au supermarché. On pensait qu'on ressortirait jamais et on a tous pensé sincèrement à acheter un chien juste pour avoir le droit ou une excuse pour aller se balader dehors. Et pourtant, la bourse a explosé. Mais souvenez-vous de ce qui s'est passé, cette espèce de Vichy recovery. Pourquoi? Eh bien parce que les banques centrales ont réagi en injectant des milliers de milliards de dollars. Aux États-Unis, ils avaient même été carrément jusqu'à virer du cash sur les comptes des citoyens. Moralité, les marchés ne réagissent pas aux nouvelles elles-mêmes, mais à leur impact sur les politiques économiques. Ou non, plutôt, les marchés ne réagissent plus aux nouvelles elles-mêmes. Nous sommes devenus des anticipateurs, des visionnaires, et avec l'intelligence artificielle, je peux vous dire que ça risque bien d'être pire dans quelques années. Autre exemple, prenez les annonces de hausse du chômage. Sur le papier, c'est catastrophique. Les chiffres sont pourris, il y a de plus en plus de gens qui sont au chômage, les vagues de licenciements n'arrêtent pas, et il y a des gens qui ont deux, voire trois boulots pour survivre. Ça, c'est surtout aux États-Unis, mais comme c'est les chiffres principaux qu'on regarde, on le sait, on en a déjà parlé, c'est mauvais. Mais encore une fois, pour nous, les investisseurs, ça peut juste signifier que la Banque centrale pourrait retarder une hausse des taux, voire mieux, les baisser. Mais c'est tout ce qui compte. Vous l'avez remarqué ces derniers temps, c'est tout ce qui compte. Regardez ce qui s'est passé l'an dernier. L'inflation refuse de baisser plus bas, les chiffres de l'emploi sont pourris, 4 fois sur 5 corrigés à la baisse, sans cesse, et pourtant, j'ai pas besoin de vous dire ce que les marchés ont fait l'an dernier. Depuis le pivot de la Fed, on ne se voit plus les mains et on a les larmes aux yeux tellement ça monte vite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, investisseurs individuels? C'est là que ça devient un tout petit peu plus compliqué. Parce qu'on rentre dans une espèce de psychologie de marché. Et comme je le dis toujours, si j'avais su, j'aurais fait psycho plutôt que trading parce que c'est quand même vachement plus utile. Généralement, la plupart des gens ont une réaction émotionnelle aux mauvaises nouvelles. Ils paniquent, ils ont peur et ils pensent immédiatement qu'on va tous mourir dans d'atroces souffrances. Alors, réaction logique. Ils vendent. Sell! I want you to get out there and sell! Et c'est exactement là que ceux qui pensent banque centrale et soutien indéfectible de la Fed ou de la BCE entrent en scène et achètent. Prenons un exemple. Souvenez-vous à l'époque de la crise des subprimes. Beaucoup de clients ont vendu leurs actions en pleine panique. Les médias ont en rajouté des tonnes et des tonnes. Et on a très rapidement cru que l'économie allait s'effondrer, voire même pire. À l'époque, on n'osait même plus dire qu'on était banquier. Et limite, c'était plus glamour d'inventer n'importe quelle autre profession que banquier au risque de se faire jeter des pierres dans la rue. Et des fois des trucs même bien plus lourds que des pierres. Et pendant ce temps, ceux qui ont cru en Saint Bernanke, patron de la Fed à l'époque, en ont profité pour acheter à ce moment-là et ont réalisé des profits monumentaux une fois la crise passée. Pour rappel, en ce temps-là, le S&P 500 était à 666. Début 2009, on est à 666 sur le S&P 500. Pas 5666, 666 tout court. Et Nouriel Roubini venait nous dire que ça irait à 333. Alors, conseil pratique, la clé, c'est d'éviter les réactions émotionnelles. Évitez le bruit. Prenez du recul et posez-vous cette question. Les mauvaises nouvelles vont-elles vraiment changer la trajectoire à long terme des entreprises dans lesquelles nous sommes investis? Et surtout, est-ce que les banques centrales pourraient vraiment nous laisser tomber un jour? Spoiler alerte, la réponse est non. Ils sont beaucoup, beaucoup trop maqués avec les politiques et les politiques ont trop peur que la bourse pète la gueule et empêche leur réélection et du coup, ils toucheraient plus leurs indemnités de parlementaires, ils devraient trouver un vrai boulot, ils auraient plus de chauffeurs pour aller au travail. Donc non, ils ne nous laisseront jamais tomber, à moins qu'eux-mêmes tombent d'abord. Cependant, attention, il y a des limites à ce paradoxe. Quand les mauvaises nouvelles deviennent trop mauvaises, même les banques centrales ne peuvent pas sauver la mise. Exemple, la crise de 2008, encore, là on était face à une peur systémique qui pendant un moment a fait chuter les marchés à une vitesse hallucinante. Moralité, tout est une question de gré. En 2008, les banques centrales n'ont pas pu réagir assez vite parce qu'ils comprenaient pas ce qui se passait et ils ont dû trouver une solution qui a pris un peu plus de temps. Mais une fois qu'ils eurent trouvé, tout est rentré dans l'ordre et tout est remonté parce qu'ils sont venus massivement soutenir le marché comme il fallait le faire, comme Bernanke avait trouvé la solution miracle.
Expecto Patronum.
Leur méthode avait été discutable à l'époque, on va pas revenir là-dessus, mais c'était ça ou le retour au Mésozoïque et la chasse au T-Rex, c'était pas trop leur truc. En gros, pour que ça se pète vraiment bien la figure, il faut un choc exogène violent et imprévu qui ne laisse pas le temps aux banques centrales de réagir et qui nous laisse le temps à nous, de nous motiver entre nous comme quoi cette fois,
on va tous mourir.
On a besoin d'un choc qui nous prend par surprise et qu'on n'a pas vu venir. Les nouvelles doivent être si mauvaises qu'elles détruiraient immédiatement la confiance des investisseurs dans le système tout entier et c'est exactement ce qui s'est passé en 2008. C'est exactement ce qui s'est passé, mais dans un monde normal, en supposant que celui dans lequel nous vivons soit un monde normal, lorsque les nouvelles sont mauvaises, on a tendance à croire que les banques centrales et les gouvernements vont nous sauver les fesses. Donc, ça remonte, parce qu'à la fin, bah, comme d'habitude, c'est les Bulls qui gagnent.
Jordan, open, Chicago with the lead! Michael Jordan running on fumes with 45 points. That may have been the last shot Michael Jordan will ever take in the NBA.
En résumé, et les marchés financiers, c'est un peu comme cet ami qui se plaint tout le temps, mais qui finit toujours par obtenir ce qu'il veut et s'en sortir. Les mauvaises nouvelles, ce sont parfois, voire même souvent, des opportunités cachées. Alors, la prochaine fois que tout semble aller mal, demandez-vous plutôt, n'est-ce pas peut-être finalement le moment d'acheter? Plutôt que de réserver une concession au cimetière en disant, on ne reprendra plus jamais à faire de la bourse. Et puis d'ailleurs, regardez tout simplement la performance du Dow Jones sur 130 ans. La question ne se pose même pas. Malgré les mauvaises nouvelles, on finit toujours, toujours par remonter. Lorsque j'ai fait mon premier pas dans une banque, le Dow Jones était à 2000 points. On était en 87. Aujourd'hui, on est à 44 000 et nous sommes passés par le crash boursier de 87. La crise de l'épargne et des prêts dans les banques américaines avec 1000 faillites aux États-Unis. C'était fin 80, début 90. La crise du yen japonais. C'était un crash immobilier, crash des actions japonaises. C'était en 92. Éclatement de la bulle spéculative japonaise qui provoque une récession prolongée surnommée décennie perdue. Décennie qui aurait même duré 30 ans. On est passé par la crise du pesos mexicain, la tequila crisis, c'est en décembre 94, crise économique majeure au Mexique et répercussions sur plein de marchés émergents. On a passé par la crise asiatique, c'était en juillet 97 et ça a duré jusqu'à début 98. Les monnaies asiatiques qui s'effondrent, qui provoquent une instabilité économique dans toute l'Asie et des pertes massives sur les marchés mondiaux. On enchaîne direct derrière avec la crise russe en août 98. Même principe, il y a tout qui s'effondre, la Russie qui coule, qui entraîne avec elle le rouble et panique générale sur les marchés financiers mondiaux. La crise du fonds LTCM qui nous tombe dessus dans le sillage de la crise russe, c'est le fonds spéculatif qui s'effondre, et puis on couronne tout ça avec mars 2000, jusqu'en mars 2002, effondrement, éclatement, explosion de la bulle internet, vous connaissez l'histoire, les actions techno explosent, chute massive du Nasdaq, effondrement du S&P 500, derrière il y a Enron qui part en vrille également, puis plusieurs entreprises qui partent en sucette parce qu'on remet en question les modes de comptabilité, derrière on enchaîne avec la crise des subprimes 2007-2009, avec le pic en septembre 2008, 2008 et l'effondrement de Lehman Brothers. À peine remis de tout ça, on se tape la crise de la dette souveraine européenne, c'est 2010-2012. La dette de la Grèce qui explose, la dette de l'Espagne qui explose, la dette de l'Italie qui explose, Draghi qui vient sauver tout le monde après avoir mis tout le monde dans la merde déjà à l'époque. Derrière, on s'en sort, mais on se fait la crise chinoise sur les marchés boursiers, effondrement du marché chinois qui commence en juin 2015 et qui se termine en début 2016. Là encore, les marchés émergents qu'on prenne pour leur grade, sans compter les matières premières. Et puis alors, dans la foulée, crise des marchés émergents, c'était en 2018. La hausse des taux américains et le renforcement du dollar provoquent une crise dans plusieurs marchés émergents, comme la Turquie ou encore l'Argentine. Et puis, on ressort la tête de l'eau et bam, crash du Covid, mars 2020. Et on couronne tout ça avec une bonne petite crise des crypto-monnaies et la faillite de FTX en 2022. Et là encore, au milieu de tout ça, je vous épargne les guerres et les attentats, 11 septembre, attentat de Madrid, attentat de Londres, etc. etc. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à la fin, encore une fois, et c'est peut-être le mot de la fin, c'est les Bulls qui gagnent. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Mais comme à l'heure où je vous parle, je suis dans l'avion, je ne voulais quand même pas vous laisser orphelin. Alors d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse-Côte en français, de liker, de partager, de commenter. Moi, je vais faire le guignol à la télé ce soir et je vous retrouve dimanche pour un nouveau Swiss Bliss. Et ensuite lundi, bien sûr, avec le Morning Bull live. Comme d'habitude, soyez forts. Restez positifs et puis surtout soyez en forme parce que la semaine prochaine, il y a des résultats, ça va faire mal. Profitez bien, à bientôt. Bye bye.